France Inter. Nicolas Demorand, le 7-9.
Et l'invité du grand entretien de France Inter ce matin est professeur de sociologie à l'université Paris Diderot. Ses travaux portent sur les ressorts de la croyance. Il a de ce fait été amené à travailler sur les fausses informations, les rumeurs, les complots qui circulent, on va y venir, beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment. Il a également été partie prenante d'un centre pilote dédié aux jeunes en voie de radicalisation islamiste. Gérald Bronner, bonjour.
Bonjour.
Et on va commencer par là, par Chérif Chekat, l'auteur de l'attentat de Strasbourg qui a été abattu hier par les forces de l'ordre. C'était un délinquant multirécidiviste condamné à 27 reprises à l'âge de 29 ans. Il se serait radicalisé en prison où son prosélytisme agressif avait attiré l'attention. Il était fiché S. Que vous inspire ce profil que certains aujourd'hui appellent hybride, mélange de délinquance et de radicalisation sur le tard?
Je dois dire que ce profil n'étonne plus beaucoup ceux qui observe ce phénomène depuis un certain nombre d'années maintenant, puisqu'il en est fait assez conforme à ceux qui frappent par l'action terroriste en France ou en Belgique notamment. Il y a à ce sujet un beau rapport de Marc Ecker qui a essayé d'analyser un peu plus de 100 profils et qui arrive à cette conclusion qui est celle-ci, que effectivement ce sont souvent des gens qui viennent de la délinquance, qui grandissent dans des quartiers dits sensibles et qui sont d'origine immigrée. Mais c'est quand même un peu étonnant si on prend un grand angle, car en réalité si on s'intéresse au terrorisme et qu'on déplie cet intérêt au niveau de l'histoire mondiale et qu'on met, je dirais, dans l'urne à la fois le terrorisme d'extrême gauche, d'extrême droite et y compris le terrorisme islamiste, par exemple d'Al-Qaïda, on s'aperçoit que les profils jadis, si je puis dire, n'étaient pas du tout ceux-ci. C'était plutôt des gens qui avaient un niveau d'études supérieur à leur moyenne nationale, qui venaient de catégories sociales moyennes ou supérieures. Et donc, il se passe là quelque chose de, en quelque sorte, un peu nouveau et du coup, sociologiquement intéressant.
Il avait été élevé par un père non religieux, dit-on. Ceux qui avaient pu le connaître, des amis, d'anciens amis notamment, leurs propos sont publiés dans la presse, ne décrivent pas un fanatique, mais un homme pieux. Comment on explique ce basculement soudain, pour commencer dans une forme de religiosité et pour finir dans la violence? La sociologie a quelque chose à nous dire de ça?
Certainement, plusieurs disciplines, la sociologie, la psychologie, bien entendu. D'abord, il ne faut pas tout à fait se fier aux témoignages de ceux qui l'ont connu, parce que d'abord, il y a souvent des stratégies de dissimulation, et puis on a plus de tendresse pour quelqu'un qu'on connaît que pour quelqu'un dont on lit l'histoire dans le journal. Mais il est évident qu'on ne se radicalise pas tout seul. C'est très rare. Donc, la prison, évidemment, ou la mosquée, ou le quartier, ça peut être des quartiers, des endroits où il y a une polarisation des points de vue. Mais aussi, ça peut se passer sur Internet. Car quand je dis pas tout seul, il n'y a pas besoin de rencontrer physiquement les personnes. Il suffit de créer une forme de chambre d'écho. Et puis, souvent, la radicalisation est progressive. C'est-à-dire que c'est un escalier dont les premières marches sont toutes petites. On ne s'aperçoit pas qu'on est en train de gravir l'escalier de la radicalisation. Et puis, quand on est très haut, eh bien, on est en rupture avec le sens commun. Et c'est ça le plus mystérieux. Évidemment, c'est qu'on pense toujours faire le bien. C'est-à-dire qu'on peut tuer des personnes, c'est odieux de le dire, mais avec une certaine idée qu'on se fait du bien. Et c'est là que le sociologue intervient, bien entendu, parce qu'il doit regarder les variables sociales qui conduisent, ou économiques, qui conduisent des individus, éventuellement, à trouver plus séduisantes des idéologies. Mais il ne faut pas oublier aussi que ces idéologies, elles sont très séduisantes. En réalité, vous savez, dans le vieux débat entre radicalisation de l'islam et islamisation de la radicalité...
Oui, qui divise les spécialistes.
Oui, mais à tort, je crois, parce que je pense que les deux ont un peu raison. C'est-à-dire qu'il est vrai que l'islam, à l'heure actuelle, a une grande performance argumentative. C'est très convaincant pour un certain nombre de jeunes qui ont envie de trouver un sens à leur monde. Mais il est vrai aussi que cette idéologie, elle est convaincante parce qu'un certain nombre de ces jeunes gens sont frappés par des variables de frustration sociale, par exemple de colère, par une histoire qui peut être en partie fantasmée d'eux-mêmes et de la communauté à laquelle ils appartiennent.
Gérald Bronner, ce sont des fous, des fanatiques?
Je dirais pas que ce sont des fous. Il y a des fous, bien sûr. Hein. Des gens fous, ça existe dans le monde et la psychiatrie est intéressée par ces cas. Mais je ne pense pas que c'est ça qui explique la pensée extrême. Au contraire, je pense que la plupart du temps, cette rationalité qui est folle, qui aboutit à des conclusions folles, a des raisons. Hein. Donc, moi, mon travail, c'est de chercher les raisons de ces individus sans leur donner raison, n'est-ce pas? Reconstruire leur univers mental, parce que c'est peut-être la seule façon, d'ailleurs, qu'on a de penser les questions de décroissance de la croyance, n'est-ce pas? Si on ne comprend pas leur univers mental, si on part du principe qu'ils sont fous, alors il n'y a rien à faire et ce serait dramatique.
Vous parlez du système immunitaire intellectuel. Que voulez-vous dire par là?
Bien, c'est une façon d'appréhender le problème, parce que vous savez, quand vous avez un croyant en face de vous, ça sert à rien d'essayer de démentir sa croyance. Au contraire, il y a ce qu'on appelle l'effet boomerang. Il est probable que vous renforciez sa croyance, parce qu'un croyant, c'est quelqu'un qui tient à sa croyance. Et quand vous le menacez par vos arguments, par des faits, en disant mais tu vois bien que la Terre n'est pas plate, par exemple, puisque, bien la personne va se sentir en danger et elle va avoir un mécanisme, donc comme dans un système immunitaire, de défense de sa croyance. Donc la meilleure chose que vous puissiez faire pour contourner ce système de défense, c'est de ne pas attaquer la croyance en elle-même, mais d'attaquer les processus intellectuels qui l'ont conduit à cette croyance, et notamment toute une série d'erreurs de raisonnement. Vous savez, par exemple, dans le complotisme, parce que vous savez que les gens qui se radicalisent dans le djihadisme sont très souvent complotistes, le complotisme fait souvent une confusion entre deux phénomènes qui arrivent en même temps. Et du coup, ils considèrent que l'un a créé l'autre.
Donnez-nous un exemple.
La confusion entre corrélation et causalité. Ben, l'exemple, ben, là, par exemple, à Strasbourg, c'est très simple. Il y a un attentat qui survient en même temps qu'un mouvement social. Donc, cet attentat n'arrive pas par hasard. Cet attentat a été créé peut-être pour empêcher le succès de ce mouvement social. Donc, vous voyez, cette confusion entre corrélation et causalité, excusez-moi du caractère technique de ce que je dis, mais l'idée est très simple. Eh bien, il est possible de la faire reculer. Ça sert à rien d'attaquer la croyance en elle-même, mais on peut attaquer le processus cognitif qui conduit à cette croyance. Je pense que ça, c'est un des seuls espoirs qu'on a de proposer, disons, une excitation de la pensée analytique, de la pensée critique du croyant.
Gérald Bronner, on a affaire, dans le cas du terrorisme et de ceux qui passent à la radicalisation, à de la croyance au sens religieux ou à de la crédulité ?
Moi, je ne distingue pas beaucoup les deux.
Vous ne distinguez pas les deux.
Dans mon esprit, la crédulité n'implique pas la bêtise, n'est-ce pas ? C'est vrai que c'est un terme c'est un peu péjoratif, et c'est même tout à fait faux, parce qu'on sait que certaines croyances, par exemple l'astrologie ou des croyances de ce genre, sont très liées au niveau d'études. En d'autres termes, plus on a un haut niveau d'études, plus on a une chance de croire à certaines croyances. Donc, ça n'a pas grand-chose à voir avec la bêtise, même si les croyances, telles qu'elles sont exprimées, peuvent nous paraître très bêtes, bien entendu.
Est-ce que la déradicalisation, et je disais que vous aviez été partie prenante d'un centre pilote qui était dédié aux jeunes en voie de radicalisation, donc non emprisonnés ni fichés, est-ce que ça peut marcher ?
Alors, pour vous dire la vérité, je n'en sais rien à l'heure actuelle. Moi, j'essaye d'être un homme de science, donc je ne vais pas tirer des plans sur la comète, puisque ce centre a dû fermer pour faute de combattants, puisque c'était basé sur le volontariat. Et voilà, le problème du volontariat, c'est quand les gens ne sont plus volontaires, ils peuvent partir. Et donc, on n'a pas pu tester l'efficacité de ce qu'on a fait. Ce que je pourrais vous dire, c'est que j'ai le sentiment, parce que je les voyais très souvent, donc ces jeunes, je les ai accompagnés des dizaines d'heures, et j'ai eu le sentiment qu'en effet, il y avait des grandes plaques, en quelque sorte, de leur représentation qui bougeaient un peu. Vous savez, par exemple, sont des jeunes qui ne croyaient pas au hasard. Quand vous êtes très religieux, quand vous êtes sur la pointe de la croyance religieuse, tout fait sens. Dieu vous parle sans cesse. Vous êtes en voiture, il y a trois feux verts d'affilée, c'est Dieu qui l'a voulu, etc., etc. Donc ça prend presque une allure presque paranoïde, hein. Vous avez une version paranoïde du monde. Et donc il est là très intéressant de voir si on peut faire renouer ces esprits avec juste la perception du hasard, déjà. Et je pense qu'on avait, on avait avancé sur ce terrain, mais pour être tout à fait honnête, je ne peux pas être définitif sur ce point.
La prison reste la grande école de la radicalisation?
Mais certainement, parce que la prison a toutes les caractéristiques justement d'un monde clos. Donc on trouve là des gens qui ont un certain temps. Il faut bien occuper votre temps de cerveau disponible en quelque sorte. Et en plus, quand vous êtes en prison, c'est que généralement vous avez commis des délits, sauf si la justice s'est trompée. Et donc vous avez besoin d'une narration qui éventuellement vous lave de vos péchés. L'avantage de la radicalisation ou de toutes sortes de croyances, c'est qu'elle vous propose de redistribuer les cartes identitaires. Elle vous dit grosso modo, c'est pas de ta faute. Bien sûr, tu as été délinquant, mais c'est pas de ta faute. C'est de la faute du système, c'est de la faute de la haine qu'on a pour toi, etc., etc. D'ailleurs, ce discours peut être en partie vrai, c'est pas la question. Mais c'est un discours qui vous permet de réacquérir une forme de virginité. C'est pour ça qu'on parle de reborn, d'ailleurs, de renaissance, hein, dans les phénomènes religieux.
Gérald Bronner, comment avez-vous reçu, vous en avez dit un tout petit mot, les publications de Gilets jaunes au soir de l'attentat de Strasbourg qui disaient « Ah, ben voilà, il n'y a pas de hasard précisément pour nuire au mouvement des Gilets jaunes, voilà que l'État à un bon attentat qui tombe vraiment très très bien. Ça vous a étonné ou pas du tout ?
Écoutez, je ne vais pas vous mentir, bien sûr non, ça ne m'a pas étonné. Je pense que le monde social est très imprédictible, mais s'il y a bien quelque chose qui est très prévisible, c'est la mécanique complotiste. Ce n'est pas étonnant, puisque désormais, à chaque fois qu'il y a un attentat, Nicolas, il y a un cortège de théories du complot, d'arguments en faveur de la théorie du complot qui surgissent, et ça va de plus en plus vite. Songez par exemple que pour les attentats du 11 septembre, il a fallu attendre à peu près un mois pour voir surgir la théorie du complot. À partir de Charlie Hebdo, par exemple, c'est zéro jour. Le jour même, le 7 janvier, il y avait déjà plus de 20 arguments en faveur de la théorie du complot. Donc on a vu ça, évidemment, pour l'attentat de Strasbourg, avec cette petite spécificité que cette mécanique prévisible du complotisme a rencontré les intérêts d'un mouvement social. Donc, est-ce que les Gilets jaunes sont plus complotistes que d'autres groupes sociaux ? Je n'en sais rien, je ne dirais pas ça, on n'a pas les données pour le dire, mais il n'est pas étonnant du tout, parce que qu'on croit par intérêt, vous voyez, il y a un désir de croire dans ce cas de figure, parce qu'effectivement c'est très frustrant pour ces gens qui sont engagés dans la lutte, de se dire, ah ben voilà, la stratégie du détournement de l'attention, on va nous faire regarder ailleurs, voire on va interdire la manifestation. Mais l'intérêt marque souvent la raison de croire, souvenez-vous, dans l'affaire DSK, à New York. Est-ce un complot ? N'est-ce pas un complot ? Quand on avait fait un sondage sur cette question, ceux qui étaient les plus nombreux à croire que c'était un complot, c'était les membres du Parti Socialiste, ceux qui étaient sympathisants du Parti Socialiste. Et on retrouve cette tendance partout, pour tous les complots. Donc là, c'est un croisement très intéressant entre un mouvement social et une mécanique très prévisible de théorie du complot.
Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui, Gérald Bronner, dans les complots tels qu'ils nous apparaissent ? C'est le fait qu'ils circulent beaucoup et très rapidement sur Internet ? C'est le fait que leur nombre soit exponentiel ? Est-ce qu'il y a un élément nouveau dans la réalité qu'on vit là ?
Ah oui, il y a beaucoup d'éléments nouveaux.
Lesquels, alors ?
Premier, c'est celui que vous avez dit, c'est-à-dire la rapidité, je viens d'en parler. Le deuxième, c'est que l'Internet, qui est en fait une forme de dérégulation du marché de l'information, c'est-à-dire qu'on ne peut plus réguler cette information, tout le monde peut parler, et c'est très bien d'une certaine façon, sauf que ça a quelques effets pervers. Et l'effet pervers principal, c'est que sur ce marché, ceux qui se font le plus entendre, ce sont ceux qui parlent le plus fort, le plus souvent. C'est-à-dire ceux qui sont le plus motivés à faire valoir leur point de vue. Alors que la plupart d'entre nous, on reste plutôt silencieux, on parle de temps en temps, mais quand on est croyant, on est très motivé. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a une asymétrie de motivation qui fait que tout à coup, il y a des points de vue qui deviennent ultra visibles. Prenez pour les Gilets jaunes, par exemple, vous savez bien que certains comptes Facebook notamment ont dû être fermés aux commentaires sur la question du conspirationnisme, précisément parce que les conspirationnistes Gilets jaunes parlaient beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient plus représentatifs, mais ils étaient plus visibles. À tel point, et c'est là le dilemme, disons, du modérateur de ce groupe, qu'il a dû fermer les commentaires. C'est quand même très paradoxal pour un mouvement qui réclame la démocratie directe. Parce qu'attention, ça peut être ça aussi, la démocratie directe.
Le rôle de Facebook, qui a été pointé à plusieurs reprises ces dernières semaines, comment l'analysez-vous ?
Bah, disons que Facebook, au départ, comme vous savez, c'est un réseau social. Donc l'intérêt de Facebook, c'est que vous ayez envie d'y retourner, d'y aller très souvent. Et donc le problème, ça fait partie de leur business model, c'est compréhensible, puisque c'est sur cette base qu'il va vous vendre de la publicité, etc. Donc en fait, ils troquent du temps d'attention contre de l'économie. C'est ça le business model qu'il y a derrière, Facebook. Et donc le problème, c'est qu'il y a à l'intérieur de Facebook des algorithmes qui vont vous conduire, par exemple, à la fréquentation du même. Vous allez voir parmi vos listes d'amis ceux qui ont tendance à liker plus souvent, à partager ce que vous aimez. Et donc, ça va constituer, encore une fois, une chambre d'écho. Vous allez fréquenter des gens qui pensent comme vous avec ce risque de polarisation. Parce que quand on est entre nous, quand on pense comme nous, bah souvent on pense contre eux. Le « nous » s'oppose souvent au « eux », donc on a des phénomènes de radicalisation, des phénomènes de haine en ligne, mais ce n'est pas que Facebook qui est responsable de ça. Donc vous voyez, c'est très intéressant d'un point de vue social, parce que c'est souvent comme ça que ça se produit. Il y a des phénomènes qu'on appelle émergents, c'est-à-dire des phénomènes collectifs, qui viennent bien d'intentions, mais qui sont le résultat, disons, non intentionnel. C'est comme un embouteillage, c'est-à-dire que on veut rentrer chez soi, c'est bien une intention, mais on veut pas provoquer un embouteillage. Seulement, tout le monde veut la même chose au même moment, et on provoque donc un phénomène collectif qui nous échappe. Et je pense que la réalité de Facebook échappe largement à ceux qui l'ont produite. Mais on l'a produit aussi, cette réalité. Donc, il faut de la régulation. C'est un marché qui a besoin de régulation, donc c'est un marché qui a besoin de politique, en quelque sorte.
Deux questions rapides avant de donner la parole aux auditeurs, Gérald Bronner. Est-ce qu'il n'y a pas un biais facile que de réduire un mouvement social inédit, imprévu et par bien des aspects incompréhensible, en tout cas quand il émerge, à la configuration d'un algorithme?
Ben, je pense que ce serait très réducteur. En revanche,
non, parce qu'on le lit ça aussi. Ah, c'est Facebook, c'est Facebook. Depuis qu'ils ont changé leur algorithme, voilà, ça explique le mouvement social. Et on a une explication technicienne circulée. Il n'y a plus rien à voir.
Non, alors je ferai pas du tout mienne ce genre d'explication. Par contre, ça peut être une variable parmi d'autres. Moi, je suis un sociologue qui croit que la plupart du temps, les phénomènes collectifs sont multivariables. Donc, il y a plein de variables. Effectivement, l'idéologie nous conduit à voir une variable plutôt qu'une autre. C'est le monocausalisme, c'est-à-dire vouloir qu'il n'y ait qu'une seule cause. Non, bien sûr que c'est pas ça. Par contre, on peut constater qu'il y a une forme de parallélisme entre la structuration d'Internet et ce qui s'est passé sur le territoire, un peu comme la carte et le territoire, en quelque sorte. À la fois dans l'action des Gilets jaunes par les différents ronds-points, etc., on retrouve un peu la réticulation, le réseau Internet, le fait que ça soit un mouvement traversé par des fake news, des infox, des théories du complot, peut-être pas plus qu'ailleurs, mais en tout cas tout autant que sur Internet, et puis la confusion entre une forme d'horizontalité, avec des gens qui s'autodésignent ou qui sont disonniers, on ne sait pas comment, et qui, pas comme représentants, puis qui le lendemain sont menacés de mort s'ils rencontrent, enfin, cette espèce d'anarchisme incontrôlable qui fait que c'est un mouvement social totalement inédit, mais qui ne peut pas se rabattre seulement à un algorithme, en effet.
Est-ce qu'il n'y a pas une forme, et c'est dans le même ordre d'idée que la question précédente, dans l'effroi qu'ont pu susciter les conversations des Gilets jaunes, factuellement fausses, conspirationnistes, manipulées? Certes, c'est dans les exemples qui ont circulé, c'est vrai, mais n'est-ce pas aussi facile que de réduire l'ensemble de ces paroles à une manipulation par-ci, volontaire ou non? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de mépris à lire ces échanges uniquement sous cet angle-là?
Mais certainement, c'est pour ça qu'il faut. Je suis très prudent. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a du conspirationnisme, mais comme je vous l'ai dit, est-ce que c'est particulièrement caractéristique? Peut-être que oui, mais je n'en sais rien. Je suis sociologue, je n'ai pas encore les données. On va les avoir, d'ailleurs, je pense. Mais en effet, cela peut donner lieu aussi, évidemment, à des manipulations type politique, puisque c'est de la narration, tout ça. Mais en même temps, il n'y a pas forcément de la malveillance là-dedans. C'est qu'on retombe sur la même logique de visibilité et représentativité, c'est-à-dire qu'on va parler de ces événements, et c'est ce qu'on est en train de faire ce matin, parce que c'est spectaculaire, parce que c'est de nature, y compris pour les médias, disons, conventionnels comme France Inter, c'est de nature à attirer, disons, de l'attention de nos concitoyens, et dans le fond, les médias fonctionnent aussi comme ça. Donc vous voyez, c'est le serpent qui se mord la queue. Mais on a le droit d'analyser ce processus, même quand on est embarqué, comme moi, à cette heure-ci, dans ce processus.
Allez, on est au standard avec Pascal. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Je vous remercie. Oui, je vous remercie de prendre ma question. La première chose que j'aimerais savoir, c'est, je suis enseignant documentaliste et à ce titre, j'essaye d'éveiller l'esprit critique et de travailler là-dessus, donc avec mes élèves, notamment par le débat et aussi par des très bonnes vidéos qui sont diffusées sur YouTube, etc. Mmh. Mais on se retrouve parfois sur une vraie mise en abîme puisque des vraies vidéos faites pour démontrer des théories du complot qui sont très explicites. Ce qui fait une vraie mise en abîme, c'est quand à la fin de la diffusion, on se retrouve avec certaines interventions qui disent « Mais est-ce que c'est vrai ?» avec expliqué par le menu tous les ingrédients qui font que, donc, bah, regardez, on met une voix inquiétante, on met une voix off.
Donc vous diffusez à vos élèves des vidéos qui démontent des théories du complot qui sont à nouveau mises en cause comme étant peut-être fausses, c'est ça?
Non, c'est même plus vicieux que ça.
Alors dites-nous.
Ça explique très bien, voilà, ça montre des fausses vidéos complotistes, donc c'est-à-dire des théories du complot qui n'existent pas. Mais malgré tout, certains se demandent encore si c'est vrai ou pas. Je ne sais pas si je suis clair, c'est très difficile d'expliquer. C'est mise en abîme, c'est...
Ouais, ouais.
Moi, j'aimerais des outils là-dessus, parce que j'essaie de me documenter, de m'armer, mais c'est parfois difficile.
Merci Pascal, je livre la mise en abîme à Gérald Bronner pour qu'il vous réponde.
Oui, ce monsieur fait peut-être référence d'ailleurs à l'initiative de Spicy. C'est une chaîne qui en effet avait fait une fausse théorie du complot à des fins pédagogiques. Bah, c'est le problème, quand on dément une rumeur, par exemple, on sait que généralement, il y a toujours 30% à peu près des gens qui comprennent l'inverse que du démenti de la rumeur. Et puis en plus, vous contribuez à diffuser l'information à des oreilles qui n'auraient pas forcément entendu. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire ce genre d'exercice, mais il faut le faire très prudemment. Moi, j'essaie de plaider quand je peux avoir des oreilles qui m'écoutent sur ce sujet, notamment à l'éducation nationale, pour dire que je ne suis pas sûr que le plus utile soit de faire des des cours contre les théories du complot, encore une fois. Parce que vous risquez, en plus, ça peut mettre très mal certains enseignants, parce que vous risquez de tomber sur des élèves qui vont être plus compétents qu'eux sur certaines théories du complot et qui vont donc les ensevelir sur ce que j'appelle des millefeuilles argumentatives, des dizaines d'arguments différents. Et l'enseignant n'est pas préparé et du coup, ça c'est problématique pour toute la classe, parce qu'il perd son autorité. Encore une fois, je pense qu'il faut aller en deçà. C'est-à-dire qu'il faut travailler sur les processus cognitifs qui, ceux-là, sont neutres d'un point de vue narratif, neutres d'un point de vue idéologique, pour montrer comment est-ce qu'on peut se tromper. Par exemple, toutes les théories du complot, y compris celles des gilets jaunes à propos de l'attentat de Strasbourg, commencent généralement par à qui profite le crime, le qui prodes ou le qui bono, à qui profite le crime. On trouve toujours des gens qui profitent d'une situation, ça ne veut pas dire que ce sont eux qui les ont produits. Et donc on peut trouver des tas de situations, on peut donner ça comme exemple aux élèves, où il y a des situations qui profitent à des gens, mais ce n'est pas eux qui les ont produits. Par exemple, l'embouteillage dont je parlais tout à l'heure profite à ceux qui vendent de l'essence, mais ce n'est pas ceux qui vendent de l'essence qui produisent les embouteillages.
On retourne au standard. Bonjour Émeraude.
Bonjour.
Vous nous appelez de Roubaix, je crois. Soyez la bienvenue.
Oui, merci. Bah, je suis une très grande fidèle de France Inter, hein, donc depuis longtemps. Enfin, c'est pas le sujet aujourd'hui.
Moi, bah, bienvenue chez vous alors.
Ouais, merci. Bah, en espérant vous accueillir à la condition publique et à Roubaix.
Avec plaisir.
Merci. Pour revenir à votre thématique d'aujourd'hui, moi, je suis consternée pour deux choses. Un, le complot face à un gouvernement qui se démène face à une politique depuis 40 ans qui est obsolète aujourd'hui, certes. Mais quand je vois les gens qui se mettent à la tête des gilets jaunes, moi, je suis consternée par des manipulateurs d'extrême droite ou de gauche qui nous abusent. Moi, j'habite à la frontière belge, côté France, bien sûr. Je galère, je bosse 40 heures par semaine, voire plus. Je calcule pas mes heures, je suis passionnée. Et je me retrouve face à des gilets jaunes qui viennent de Belgique. Et là, ça me choque. J'en ai ras-le-bol du mouvement. Et le complot, je trouve ça choquant avec ce qui s'est passé à Strasbourg. Et ma question pour vous, pour votre invité, c'est comment arriver à désamorcer une souffrance qui dépasse le raisonnement face à des gens qui crient au complot et qui, au final, vont nous pourrir la vie et ne servent à rien, puisque nous, on doit quand même avancer et assurer l'avenir de nos enfants et les enjeux économiques de ce monde. Quoi. Enfin, voilà, moi, c'est mon combat aujourd'hui, c'est de préserver le quotidien de mes enfants, de ma fille, et puis de me battre pour que tout se passe bien demain et lui laisser une terre digne de ce nom. Quoi. Et je vois
Merci.
Des gens qui sont des pourris. Quoi. Je le dis, c'est des pourris, ceux qui nous manipulent.
Merci, Émeraude, pour cette question. On entend la colère aussi, une vraie colère. Gérald Bonner, comment répondre?
Bah oui, une colère qui est compréhensible parce qu'on se sent dépossédé de son mouvement par des minorités, en réalité, qu'elles soient d'extrême gauche, d'extrême droite ou autre. Une des façons, alors c'est vraiment encore une fois un décalque du phénomène d'Internet, hein. Ça n'a pas attendu Internet, ce genre de tyrannie des minorités, là je mets vraiment entre guillemets ce terme, est un phénomène constant de la vie sociale. Mais il faut que chacun prenne sa place. L'avantage de ces individus, c'est qu'ils parlent beaucoup et fort, mais aussi on fait une politique de la chaise vide. C'est-à-dire que je crois qu'il faut aller les contredire partout où on le peut, sur les forums, sur les réseaux sociaux. Et le problème, c'est qu'ils créent une forme d'intimidation morale aussi, parce qu'ils nous ensevelissent d'arguments, on n'a pas forcément le temps, et au jour le jour, ils grappillent comme ça, peu à peu, que ce soit sur la question des anti-vaccins, on observe le même type de phénomène. Donc, une première réaction, c'est d'abord de prendre toute sa place en tant que citoyen dans ce formidable espace qui est Internet.
Gérald Bonner, merci beaucoup d'avoir été au micro d'Inter ce matin. Je rappelle que vous êtes, on l'a entendu, professeur de sociologie à l'université Paris Diderot.